Lanoux vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. L'ange exterminateur. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Range le contrat dans sa serviette. L'homme lui dit : Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci, je dois rentrer. Vous verrez, vous serez très satisfait de nos services. Il tend la main à l'homme et l'homme le conduit vers la sortie. Il ouvre la porte. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Marc longe le jardin pour retrouver sa voiture. Entre dans la voiture et démarre. Arrêter sa voiture devant les bureaux de son entreprise qui se trouve cour Emisola. Il entre dans le bureau. Tombe nez à nez avec son patron.
Oh Marc, bonne journée.
Oui, ça peut aller.
J'ai vu votre carnet de commandes. Félicitations, mon vieux. c'est le plus rempli de l'entreprise. Les extincteurs Félix, grâce à vous, commencent par être connus.
Marc habite chez ses parents à Lyon, rue Vendôme, dans un vieil immeuble rénové. Il monte jusqu'au premier étage. Les grands, minces, presque maigres, le visage allongé, une bouche sensuelle, de grands yeux bleu roi, avec des sourcils qui montent, des cheveux mi-longs, châtains, et d'une beauté envoûtante, habillé d'un costume gris et porte sa serviette à la main en cuir noir. Il sonne à la porte. C'est son père qui lui ouvre.
Salut, petit.
Marc entre. Ton père ferme la porte. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, petit, maigre, visage ridé, cheveux et moustaches noires. Il porte de grosses lunettes en monture plastique marron. Est habillé d'un maillot de corps blanc et d'un vieux bleu de travail. Marc va dans sa chambre. L'appartement est un 4 pièces, 2 chambres, salle à manger, salon, cuisine, salle de bain, meublé 1960 avec des meubles plastiques, bois, style rustique. C'est Marc qui a la plus grande chambre, avec un lit à 2 places, armoire, bureau, fauteuil, télévision, chaîne Hi-Fi. Il se déshabille. S'est mis en chemise et pantalon noir. Puis, il va à la cuisine. Où se trouve sa mère? C'est une petite femme, maigre, les cheveux frisés, le regard clair. Elle porte une blouse à fleurs blanc et bleu.
Ça va, Marc? T'as passé une bonne journée?
Oui. Marc se met à table où est déjà son père. La mère leur sert la salade verte. Les parents sont fiers de leur fils. Garçon intelligent, sérieux, travailleur. Après avoir dîné, les parents sont allés dans la salle à manger regarder la télévision. Marc est dans sa chambre, à son bureau. Sur un cahier, il écrit. Je croyais trouver chez les autres ce que je ne croyais ne pas avoir. J'ai trop demandé aux autres. Pas assez à moi-même, parce que je ne me connaissais pas. Je croyais les autres grands, et ils étaient plus petits que moi. Mais ils avaient quelque chose d'essentiel qui faisait qu'ils étaient plus forts que moi.
c'était la confiance en eux. Moi, je ne croyais pas en moi. Moi, pour vivre, je recherchais la grandeur, la noblesse chez les autres. Mais eux se contentaient de la médiocrité, l'uniformité. C'est pour cela que ma vie est un gâchis. Il referme le cahier. Et dit, je veux retourner aux origines de l'homme, où l'homme était vraiment l'homme. Casser les chaînes que la société m'a mises. Et pour cela, il faut aller au-delà de la loi. Le lendemain matin, Marc, habillé de noir, prend le train pour Barry, sans bagage. Arrivé à Paris à 13h, ciel gris, début mai, un mercredi. Boulevard Saint-Michel, il entre dans un immeuble modeste. Au premier étage. Puis ouvert, un jeune homme, grand, maigre, le regard clair. Il a des lunettes en métal, les cheveux bruns, est habillé d'un pantalon et d'un pull marron. Salut Charles. Marc ? Oui. Mais comment tu as fait pour me reconnaître ? Je ne sais pas. Ton regard va avec tes écrits. Mais entre, je t'en prie. Marc, entre. Surpris. Appartement simple, mais petit bourgeois. Meubles 1900, tapisserie vieillotte. Charles fait entrer Marc dans la salle à manger. Où la table est encore mise. Une vieille dame, petite, cheveux blancs, habillée de noir, pèle une pomme. Il s'approche d'elle. Mère, je vous présente Marc, le jeune homme qui écrit de si jolies choses. Marc tic et est déçu. Il n'écrit pas pour faire joli.
Enchanté, jeune homme. Alors, vous êtes de passage à Paris ?
Je n'ai intention de m'y installer un moment.
Vous avez trouvé un où loger ?
Non. Il regarde Charles. Nous pouvons t'héberger quelques jours ? Tu as faim ? Oui. Assieds-toi. Je vais te servir.
Deux heures plus tard, Charles et Marc sont assis à terre en tailleur au pied du lit. À côté d'eux, leur paquet à cigarettes et allumettes. C'est dans la chambre de Charles.
Alors, tu as quitté Lyon ?
Oui, j'en avais marre de cette ville. Pantouflarde, les gens sont bêtes, petits bourgeois. On meurt à Lyon.
Et ta famille ?
Mes vieux aussi. Tu te rends compte ? Ils étaient fiers de moi parce que je vendais à longueur de journée des extincteurs.
Tu me vois, moi, passer ma vie comme ça ? Et que vas-tu faire ?
Donner un grand coup de pied au cul à tout ça. Et écrire mes sensations qui me permettront de couper mes chaînes qui me lient à la société.
Beau projet, tu me donneras l'exclusivité de tes écrits pour la revue.
Sans problème.
Dans deux heures, si tu veux, on se donne rendez-vous vers Saint-Michel.
D'accord. Hein? On peut descendre par là déjà
oui, parce que
sur un, j'ai l'impression que c'est pas.
L'impression, de toute façon, si ça chie, ça chiera partout.
Oh, oui, oh.
Le soir, ils sortent. On sent dans les rues de l'agitation. Des jeunes qui vont, viennent en courant, qui parlent. Tu vois, il suffit que j'arrive, que ça s'agite, dit Marc.
Voulez-vous vous lever sur 5-6 derrière de façon à ce que les flics ne voient pas ça.
Attention, il y a les caméras de Jean-Luc Godard. Hein. Ah non, pas de caméras, pas de bidon, des trucs comme ça. Hein. On ne pose pas pour la. Pour les trucs qui ont bon vendre, rappel. Vous permettez.
Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que. Je veux pas engager à la bagarre. Je crois qu'on est appelé à passer la nuit.
C'est tout, merci Seigneur, déjà. Et pourquoi pas
attends, attends. Je crois qu'on a intérêt. Je pense pas qu'on ait intérêt à chercher la bagarre.
Au coin d'une rue, ils sont pris par des manifestations d'étudiants. Ils sont entourés et poussés par les manifestants. Tout à coup, la manifestation est prise en charge par les CRS. Bombe lacrymogène. Les jeunes se battent au corps à corps avec les CRS. Marc et Charles réussissent à se faufiler et à se cacher dans une allée. Que se passe-t-il ? Demande Marc.
Ce sont les étudiants qui veulent changer la société. Ils veulent faire front en commun avec les ouvriers contre le capitalisme.
Marc se marre.
Ils veulent créer un monde meilleur, comme chez les communistes.
Vingtaine de mètres de moi. Il y a une panique et je pense que les forces de charge. Voilà, tout le monde court et j'essaye de me plaquer contre le mur autant que je peux. Une bombe soufflante.
Thank you.
Quelques heures plus tard, l'émeute est finie. Ils sont sortis de l'allée. La rue est jonchée de gouttes, de gourdins, pierres, lames de fer, casques. Les mains dans les poches, Marc marche à côté de Charles. Marc voit à terre un revolver qui a dû appartenir à un CRS. Il le ramasse. Prends-le, dit Marc. Pourquoi faire? Te défendre ou aider un ami à aller plus loin qu'il ne le croit? Charles prend l'arme, le cache sous son pull. Groupe de jeunes viennent vers eux. Il leur demande s'ils veulent aller à la Sorbonne assister à une réunion politique. Charles regarde Marc. Marc crache par terre et crie. Je crache sur ces jeunes de bourgeois, fils à papa, qui lancent le pavé. Ils sont de gauche le temps de leur adolescence, parce qu'ils ont lu Sartre, Aragon et Lénine. Mais plus tard, ils seront comme leur papa et taperont sur le prolétaire. Petits connards qui font la révolution pour emmerder papa et maman. Un jeune lui dit. Tu n'as pas le droit de nous parler comme ça. Tu ne nous connais pas. Nous voulons changer le monde. Marc lui dit, pauvre con. L'étudiant furieux veut lui mettre un poing sur la figure, mais un autre lui tient la main. Laisse, viens, on s'en va. Et ils partent. Un jeune homme grand mince, les cheveux longs, blonds, retourne en courant vers Marc et Charles. Pense comme toi, tu as raison. Ce ne sont que des fils à papa. Je m'appelle Gilles, et toi? Marc et lui Charles. J'habite une chambre sous les toits, avec un groupe de copains. Vous venez? Marc aux épaules et dit. Oui, pourquoi pas? Ils entrent dans un vieil immeuble délabré. Au dernier étage. Une pièce mansardée, presque vide, où une dizaine de jeunes sont assis en rond en tailleur sur le plancher. Ils écoutent la musique, ils ont des verres, mais trop non l'amour. Ils s'assoivent et passent la soirée à lire des poèmes. S'ennuie. Il se met debout. Il ne faut pas rêver la vie. Il faut la sentir en nous-mêmes, dans tous nos sens. Essayer toutes les jouissances du monde pour briser nos chaînes. Puis, il s'assoit. Les autres n'ont pas bronché. Alors, il prend le verre de bière. Il en boit la moitié, ouvre sa braguette. Pisse dedans. Charles le regarde stupéfait. Marc lui fait un clin d'œil et donne le verre à une fille. Tiens. Elle le prend et le boit. Marc est pris de fou rire. Il se met à crier. T'emmerdes les gendarmes et la marée chaussée. Et la marée chaussée.
fille de pute.
Le lendemain matin, il se trouve dans les rues désertes, mal crie.
C'est la chasse aux bourgeois! Tuons-les tous! Regarde-moi ces cons, ils se barricadent chez eux.
Charles demande. On rentre?
Toi aussi, tu veux te barricader? Allez, viens!
Fais-nous la barricade!
Oui, alors là,
fais-nous la barricade! Ainsi! Ainsi!
La nuit, les émeutes reprennent.
Non,
les étudiants ont dépavé les rues et fait des barricades. Les CRS viennent les déloger. Marc et Charles lancent des pavés sur les CRS. Charles s'enivre. Marc rigole. Les bombes lacrymogènes tombent, fument. Des coups de matraque pleuvent. Marc est pris par le bras par un CRS qui se débat pour qu'on le lâche. Il y arrive une seconde, en profite pour se pencher à terre et prendre un pavé pour le lancer sur le CRS qui tombe à la renverse. Puis Marc crie à Charles, « Viens !» Et il quitte le champ de bataille en courant.
Et brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel.
Après 10 minutes de course, il s'arrête. Marc dit « Je ne suis pas venu ici pour cela, mais pour avoir des sensations, pour s'en sortir de ce monde pourri. Aide-moi. Tu sais, on peut trouver de la cam. Un peu, oui, je connais un petit bar où le barman en vend. Il faut de l'argent, tu en as? Un peu. Ils vont dans un bar à Montmartre. » Se sont assis sur un banc, roulent des cigarettes et fument. Au bout d'un moment, Marc pleure, rit. J'ai bande, je ne vois rien, je ne sens rien. Je suis toujours ici. Ici. Il rit. Puis, ils se sont endormis. Matin, en se réveillant, Marc est de mauvaise humeur. Je n'ai rien ressenti. Rien. Puis, il déambule dans les rues. Une fille les dépasse, jupe à carreaux marron et beige, pull rouge, blonde, mignonne. Marc dit « Je vais me la payer. » Il la rattrape et lui dit « J'ai envie de tirer mon coup. Ça te va ?» La fille panique et se met à courir. Il lui court après. Elle entre dans une allée. Il la suit. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Tu me plais. » »« Je ne veux pas. » Je ne te plais pas? Regarde ma queue. Elle lui montre, lui caresse ses seins. Elle se plaque contre le mur, les yeux qui regardent le haut. Il soulève la jupe, lui tire le slip. Une heure plus tard, il déambule dans les rues avec Charles et crie « Crève, crève, bête! Pourquoi ne crèves-tu pas? Crève! Que ton corps devienne la peau des charognes! Crève, crève! Regarde, je t'ai tout pris! Bande de cons! Bande de cons !» Charles se sent gêné, les passants les regardent. Devant un homme qui le regarde, l'homme a dans les 30 ans, il est en costume gris. Marc s'arrête et force l'homme à se laisser embrasser sur la bouche. L'homme, une fois dégagé, se sauve en courant. Pourquoi tu as fait cela? Demande Charles. Parce que ce sont tous des pédés refoulés, des loques. Ça lui a fait plaisir. La preuve, tu vas voir. Un homme de 40 ans, habillé avec une gabardine marine, attend le bus. Marc s'approche de lui et lui dit « Tu veux me baiser ?» L'homme surpris rougit. « Je ne te plais pas ? Regarde mon cul. » Il se déculotte. L'homme se sauve en courant. Bande de lâches, loc, qui aura le culot de le faire. Un homme passe. Toi? Quoi? Il se met à courir. Marc moqueries, Charles finit par rire. Dans une autre rue, il voit un homme de 25 ans, blond, veste cuir marron, pantalon beige. Je vais essayer avec celui-là.
Pourquoi ?
Pourquoi pas ? Charles le laisse aller. Il lui parle et vont dans une allée. Charles sent sa gorge se serrer. Il a les larmes aux yeux. Plus tard, il est retourné vers Charles.
C'est pas mal. Tu veux essayer ?
Charles ose les épaules et demande.
Pourquoi tout ça ?
Puis, sale, épuisé, ils sont entrés chez Charles. La mère était absente. Ils se sont couchés dans le lit de Charles. Charles a les yeux fermés. Il sent que Marc l'embrasse sur les joues, les lèvres, il caresse les couilles, il bande. Puis Marc lui demande « Caresse-moi ». Charles hésite. Marc lui met la main sur sa poitrine. Alors Charles se soulève. Dans la matinée, Charles se réveille. Il voit Marc debout, habillé. Il crie
« Je suis condamné à perpétuité. Ni la mort, ni la grâce ne peuvent arrêter mes souffrances. Je suis la douleur universelle. Je retourne à la nuit. Je m'enfonce dans les ténèbres de l'enfer. Je connaîtrai la luxure, la débauche, la laideur, la bassesse, le viol. » Je retourne à la nuit. Mon monde ne sera fait que de pavés, de rues étroites, troubles, sales. J'aurai l'âme vide. Une douleur me traversera le corps et me donnera des désirs inavouables. Je retourne à la nuit.
Charles sourit et lui dit : C'est très beau. Ce n'est pas beau. Je n'écris pas pour que ce soit beau. Charles se lève et s'habille.
Le regarde et lui demande « Que vas-tu faire aujourd'hui ?»«
Je ne sais pas, tout dépend de toi. »«
Moi ? J'en ai marre de tout ça. Je vais aller jusqu'au bout de l'insocial. Et l'acte suprême pour y arriver, c'est le crime, tuer quelqu'un. »«
Mais, »
dit Charles paniqué, « mon but, c'est sortir de la société, ne plus appartenir au milieu pour être moi-même. » Retourner aux origines de l'homme sans entrave, le vrai, le pur, et l'homme et non l'homme prisonnier de la société, soumis, entravé, entouré. Et pour cela, il faut sortir de cette société, il faut la combattre, mais pas politiquement, car la politique est sociale, mais moralement, en notre corps, c'est tabou, c'est interdit, et branler le système. Je veux partir. car il faut que je sois seul pour y arriver.
Mais je ne veux pas que tu partes, moi.
Il le faut. Laisse-moi.
Il se dirige vers la porte.
Attends, je vais t'accompagner.
Charles prend sa veste, qui est sur la chaise.
Il se retourne.
Non, laisse-moi. Tu es bien gentil, mais tu es comme les autres. Adieu.
Il ouvre la porte et sort.
Il panique, court vers la porte.
Il voit Marc descendre les escaliers. Marc !
Il ne se retourne pas.
Charles sent dans la poche de sa veste le revolver, le sort et tire.
Marc tombe.
Charles lâche l'arme qui tombe à terre.
Les portes s'ouvrent.
Il paraît qu'on l'a tué un aveugle.
Non, il s'est suicidé.
Oh, pauvre type. Oh, je comprends ça quand on est aveugle.
Quelqu'un est tombé. Quelqu'un est tombé.
Mais pourquoi a-t-il tiré?
Et cet homme-là, le mort, qui est-ce?
Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant.
Il était dans l'escalier, c'est tout ce qu'on sait. Alors, on monte. Allons-y.
On entoure Charles. Il ne dit rien. Il pense seulement.
Pourquoi ?
Il se dégage, court vers Marc, allongé sur les escaliers, la tête la première. Il a une grande tache de sang dans le dos. Il retourne le corps.
Marc, dans sa grimace, il sourit.
Charles lui demande
« Pourquoi je fais cela ?»
Marc lui dit
« Tu n'as pas compris. Tu as empêché que je devienne un homme. Mais tu m'as sorti de ce monde. Merci. Ah ah. »
Son visage se raidit, ses yeux deviennent fixes. Charles l'embrasse sur les lèvres. Le gardien de la paix lui tape l'épaule. Il se soulève. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, L'ange exterminateur. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement.